À Libre-Échange, on s'entretient avec le docteur Ariane Courville, médecin spécialiste en santé publique. Le coronavirus dont on parle depuis déjà 2 semaines et un peu plus, on en parle un peu partout à ce moment-ci au Québec et sur la planète. Et on n'évite pas, évidemment, chez nous de se poser la question, comment on voit ça, ce virus-là, s'il apparaît chez nous, et est-ce qu'on est prêt du côté de la santé publique à y faire face? Docteur Courville, bonjour.
Bonjour, Monsieur O'Leary.
Ben d'abord, tu sais, qu'est-ce que c'est ce coronavirus? Qu'est-ce qu'on en sait, dans le fond? Là? Il y a plein d'écrits et de textes un peu partout, mais bon, vous êtes en santé publique, alors allons-y avec peut-être des exactitudes ou des précisions plus intéressantes. Qu'est-ce que c'est au juste?
Ben en fait, un coronavirus, il y en a de plusieurs types, si on veut, puis il y en a qui circulent toujours là, dans notre population. Entre autres, ça peut donner, certains types de coronavirus peuvent donner des symptômes qui sont similaires à ceux du rhume. Donc, c'est une catégorie de virus, si on veut, et là, ce qu'on constate, c'est que c'en est un nouveau. Et dans ce cas-là, étant donné sa nouveauté, mais étant donné aussi qu'il y a eu des cas sévères, c'est pourquoi là, on y porte davantage attention.
Bon, quand vous dites c'est... Oui.
Mais évidemment, comme c'est un nouveau virus, on n'a pas tous les détails qu'on a sur les autres virus. Donc, on est en train d'observer ce qui se passe. Puis, au fur et à mesure que la situation progresse, on comprend de mieux en mieux qu'est-ce que ce virus-là et comment il se transmet, pendant quelle période de temps il peut être transmissible, etc.
Oui, là, on parle de 2 semaines manifestes.
L'incubation, ce qu'on appelle la période d'incubation, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Donc, c'est entre la période où la personne va être en contact avec le virus, puis le moment où elle peut développer des symptômes, il peut se passer jusqu'à 2 semaines. Mais en général, on dit même que c'est un peu moins que ça, mais par prudence, on dit que ça peut aller jusqu'à 2 semaines.
Bon, c'est un virus qui cause, ça peut causer un rhume, justement, comme n'importe quelle grippe, comme vous le dites, mais ça peut aussi aller plus loin. On le voit en Chine, donc il y a des décès qui sont accolés à ça. Donc, est-ce que c'est un peu, comment je dirais ça, est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Est-ce que c'est plus de décès par rapport à une grippe saisonnière? Est-ce qu'on sait un peu là, est-ce qu'on connaît les risques par rapport à ce virus-là, par rapport à une simple grippe ou H1N1?
Bien, évidemment, étant donné que c'est un nouveau virus, on reste en état de vigilance. Effectivement, il y a eu des cas sévères. Donc, le rhume, là, c'est quelque chose qui ne tue pas en général. Donc, c'est pourquoi les autorités de santé publique au niveau chinoise, mais aussi au niveau mondial, ont été alertées, bien que ce ne soit pas encore déclaré comme une urgence sanitaire internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Je dirais que pour notre population ici, présentement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est un peu trop tôt pour s'inquiéter, effectivement. Ce qu'on voit là dans les cas qui sont confirmés, premièrement, ce sont surtout des cas qui ont été confirmés en Chine et surtout autour de la ville de Wuhan et dans la province de Hubei, là, qui est la province où se situe cette ville-là. Et il y a des cas aussi à l'extérieur de la Chine, mais qui sont en général des cas qui ont été contractés en Chine, donc qui ont eu une exposition dans cette ville-là ou dans cette province-là. Et puis, on voit aussi le virus ne semble pas se transmettre très facilement là, d'une personne à l'autre. Oui, il y a eu de la transmission entre les personnes, mais ça n'a pas l'air d'un virus qui se transmet très bien. Donc, ça prend un contact assez étroit où ce qu'on constate, là, c'est que les gens qui ont été infectés par une autre personne, c'est des gens qui habitaient sous le même toit, puis des gens qui vivaient en général proches ou qui soignaient des personnes qui étaient infectées.
Contrairement à une grippe saisonnière, est-ce que c'est ça, il y a un indice, je dirais, on peut donc attraper plus facilement une grippe saisonnière? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça?
Bien, c'est difficile de comparer, mais on peut, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de preuve évidente que le coronavirus, là, ce nouveau coronavirus-là, se transmette très facilement d'une personne à l'autre. Mais évidemment, on continue à surveiller pour voir si son comportement, en quelque sorte, va changer.
Est-ce qu'il peut changer? Oui, c'est ça. Là. Est-ce que le virus peut changer? On dit, on utilise beaucoup le mot « muté », donc ça veut dire qu'il se transforme.
C'est pas impossible, mais c'est surtout ce qui est plus probable, c'est qu'on ait des meilleures données au fur et à mesure que la situation progresse et que là, qu'on ait des meilleures données sur la façon de se transmettre, le temps que ça prend pour infecter une personne, etc. Donc, c'est surtout qu'on accumule des données parce que c'est un virus qu'on n'avait pas vu avant.
Parlons un petit peu de protocole chez nous. Est-ce que, est-ce qu'on va appliquer un peu le même protocole qu'on a vécu dans le cas de la pandémie H1N1? Si tel était le cas, là, faut quand même préciser.
Il faut dire d'abord que bien en amont, là, il y a déjà des mesures qui sont prises. Par exemple, dans les aéroports internationaux, il y a des mesures qui sont prises pour que les gens qui sont de retour de Chine, puis en particulier de la province de Hubei, soient questionnés à leur entrée au pays pour savoir s'ils présentent des symptômes. Et on leur donne aussi des instructions s'ils ne présentent pas des symptômes pour savoir quoi faire si jamais ils en présentent. Donc, si ces gens-là présentent des symptômes, sont référés vers des agents de la quarantaine. Et là, l'agent de la quarantaine va évaluer est-ce qu'il y a lieu ou non d'avoir une évaluation médicale, puis pourrait donner des instructions à cette personne-là, entre autres, par exemple, de s'isoler à la maison ou de contacter la direction de santé publique, etc. Donc, il y a déjà ces mesures-là qui sont en place. Du côté, au niveau régional, bon, il n'y a pas d'aéroport international sur notre territoire. Donc, c'est les gens qui arriveraient de voyage et qui se présenteraient dans nos services de santé, bien, il y a aussi au triage, il y a des mesures qui sont mises en place. Donc, la personne qui arrive de voyage se fera poser la question si elle présente de la toux ou de la fièvre, si elle a voyagé et où elle a voyagé. Et Si la personne répond qu'elle a voyagé dans une zone qui est à risque, bien là, elle sera mise tout de suite en isolement, donc pour éviter qu'elle contamine des gens là, dans la salle d'attente ou des travailleurs de la santé. Donc, ces mesures-là ont été rappelées aux urgences et puis le réseau est prêt à accueillir une personne qui se présenterait et qui aurait de la fièvre ou de la toux et qui serait de retour de voyage de la province de Hubei en Chine.
Donc, il faut vraiment venir de la Chine, de ce secteur-là, pour être à risque. On comprend, comme vous dites, ça se transmet difficilement jusqu'à maintenant d'une personne à l'autre. Les cas qu'on a vus, c'est vraiment des gens qui ont voyagé, qui arrivent de la Chine. C'est un peu ça.
Oui, effectivement. Les cas qui ont été confirmés au Canada et ce qu'on appelle, nous, les cas sous investigation, ce sont nécessairement des gens qui reviennent de cette province-là de Chine. Et étant donné qu'elles ont été prises en général très rapidement puis qu'elles ne se sont pas promenées un peu partout, on a une assez bonne assurance qu'ils ne l'auront pas transmis dans la communauté ici au Québec.
Bon, c'est un point que vous avez apporté tout à l'heure aussi. Dans la région ici, on n'a pas d'aéroport international. Donc, est-ce qu'une région, plus on est loin de ces grands centres-là, moins on est à risque, dans le fond? Parce que le voyagement, il y a moins de voyagement, il y a moins
déjà,
de confinement.
En termes de nombre de population, il y a probablement moins de gens qui visitent cette région-là de la Chine dans notre population qu'il y en a qui à Montréal. Puis évidemment, quand on parle de Montréal, il y a aussi, faut le dire, une communauté chinoise qui habite à Montréal. Donc, c'est aussi, ça fait aussi une différence. Là. Ça augmente beaucoup le nombre de personnes qui voyagent peut-être dans cette province-là. Évidemment, il y a ça. Pour le reste,
c'est
quand même possible qu'il y ait des personnes qui soient infectées, là, qui soient de retour en voyage, puis qui n'aient pas présenté de symptômes à leur arrivée au pays. Mais ces personnes-là, on leur a transmis des quoi faire là s'ils présentaient de la fièvre ou de la toux. Et à ce moment-là, ce qu'on leur dit en général, c'est d'appeler Info Santé. Et Info Santé va faire le lien avec les soins de santé. Donc, on sera prêt à les accueillir à l'urgence et éviter qu'il y ait de la transmission là, à ce moment-là.
En terminant, la grippe saisonnière, est-ce qu'on est dans une hausse plus importante? Est-ce qu'on est dans le pic, comme on dit régulièrement, là, ou comment ça se passe?
Oui, bien, difficile de dire si on est dans le pic, mais on peut dire qu'il y a une très forte activité grippale présentement dans notre région, ça, il n'y a aucun doute. Et on constate dans les dernières semaines qu'il y a plus de cas de grippe de type B que de cas de grippe de type A, mais on est encore vraiment au plein cœur de la saison grippale. Donc, ça se poursuit.
Combien de cas jusqu'à maintenant?
281 cas depuis le début de la saison.
Comparé donc aux années précédentes, est-ce que c'est plus ou moins?
Bien, la seule année avec laquelle on peut comparer, c'est l'année dernière, là, puisque le test avait changé l'année dernière. C'est moins que l'année dernière à pareille date, mais on voit là, qu'il y a une augmentation quand même rapide dans les 3-4 dernières semaines du nombre de cas. Donc, c'est difficile de prévoir si ce sera une plus grosse année ou une plus petite année que l'année dernière. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a un fort pourcentage de tests qui sont positifs. Et ça, c'est une bonne indication là, qu'on est dans une activité grippale forte, donc 44 % de tests positifs. Donc, parmi tous les tests qui sont faits, là, parce qu'on soupçonne une grippe, il y en a 44 % qui nous reviennent positifs. Donc, c'est quand même très élevé.
Est-ce qu'il y a des catégories d'âge plus que d'autres qui sont touchées?
Je n'ai pas ces données-là pour la région,
okay,
parce qu'on a les données comme agrégées semaine par semaine.
Ouais.
Par contre, on sait que la grippe de type B affecte davantage les enfants, les jeunes, les adolescents, même les jeunes adultes. Et on sait que la grippe de type A souvent va amener les personnes plus âgées à être hospitalisées. Donc, ce sont les principales catégories à risque. Puis évidemment, après ça, dans la population générale, les personnes qui ont des maladies chroniques aussi sont à risque. Donc, ça peut toucher toutes les catégories d'âge, les complications de la grippe.
Est-ce qu'on sait combien?
La grippe et ses complications.
Donc, Dr. Ariane Courville, médecin spécialiste au niveau de la santé publique, merci beaucoup pour cet entretien et ces informations.
C'est un plaisir.